parole de Dieu, c'est René Monod qui nous l'apporte ce matin. Et nous allons prier pour que cette parole nous atteigne, cette parole nous rejoigne, cette parole nous transforme, et aussi que René lui soit béni et que sa famille soit bénie. Et Seigneur, moi je t'apporte René, je t'apporte sa famille. Et je demande que tu bénisses René maintenant, tu bénisses sa famille, tu protèges sa famille. Parce que quand on s'engage avec toi, le malin n'est pas content. Je leur demande vraiment une protection particulière sur toute sa famille. On te demande de lui donner les mots maintenant, les mots que tu as déjà donnés et que ces mots puissent atteindre notre cœur. Je demande vraiment que l'Esprit de Dieu vienne agir en nous au travers de ce que nous allons entendre. Amen.
Bonjour à chacune et à chacun. Bonjour à chacune et à chacun. Nous allons méditer ce matin le premier chapitre de l'Épître aux Philippiens. C'est la première d'une série de quatre, puisqu'il y a quatre chapitres. Je dois dire que c'est un des textes du Nouveau Testament que je préfère. Et j'espère bien que vous l'apprécierez encore plus après ce parcours ensemble. Et nous allons commencer par lire le texte, et ensuite je passerai parmi vous et vous poserai quelques questions. Essayez d'imaginer que vous ne connaissez rien à la foi chrétienne et que vous découvrez ce premier chapitre de l'Épître aux Philippiens. Merci Valérie, comme Paoré, d'en faire la lecture maintenant.
Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur et que, dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense de la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je souhaite que vous le sachiez, mes frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tout le prétoire comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier et ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût des disputes, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Qu'importe. De toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Je m'en réjouirai encore car je sais que cela tournera mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ce que j'attends avec impatience, ce que j'espère, je n'aurai honte de rien. Avec une entière assurance, maintenant comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Je suis enfermée dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadée. Je le sais. Je demeurerai auprès de vous tous, encore et encore, en vue de vos progrès et de votre joie dans la foi, pour que vous soyez toujours plus fiers de Jésus-Christ en moi, grâce à mon retour auprès de vous. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Pour eux, c'est un indice de perdition, mais pour vous, c'est un indice de salut de la part de Dieu. En effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant ce même combat que vous avez vu chez moi et dont, maintenant, vous entendez encore parler en ce qui me concerne.
À vous de parler maintenant. La première question qu'on pourrait se poser, c'est que découvrons-nous dans ce texte quant à la relation qu'il y a entre les Philippiens et Paul ? Votre avis ?
Une relation profonde d'affection.
Autre remarque ? Pardon ? De la tendresse. Quoi d'autre ? Du discernement. Du discernement, oui.
Donc il prie pour eux et il a de la joie à cause d'eux.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui les unit ?
Jésus-Christ
les unit. Est-ce qu'ils ont un projet commun ? Et quel est ce projet ? Et puis, si maintenant vous imaginiez être un agent de la CIA de l'Empire et que vous tombiez sur cette lettre, est-ce que son contenu vous inquiéterait quant à l'Empire ? Il propose un autre royaume, en effet. Et il ne fait absolument pas référence à l'Empire. C'est d'autres valeurs. Et soit pour les destinataires de la lettre, soit pour Paul qui l'écrit, il n'y a pas d'autre Seigneur que Jésus-Christ. Ce n'est pas l'empereur et les valeurs qu'il propage qui sont importantes. Alors merci, on va aller un petit peu de l'avant. Donc on constate que Paul et les Philippiens se connaissent bien, qu'ils ont une grande affection mutuelle, Jésus-Christ est le centre de leur relation, et la seigneurie de Jésus est le but du projet commun qui les motive. La gloire de l'empereur est hors de leurs propos. La foi qu'ils professent va se développant partout, même parmi la prison et ses employés. On a vu que Paul et les Philippiens ont collaboré par le passé et qu'ils collaborent dès les débuts de l'évangélisation à Philippe. Et c'est une chance d'avoir dans le livre des Actes des informations assez détaillées sur ce qui s'est passé à ses débuts. Et on va les résumer, on les trouve racontées dans le chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres. C'est un épisode du deuxième voyage missionnaire. Il vaut mieux viser là que l'écran. Il vaut mieux allumer, voilà. Et ça va mieux. Alors là, c'est le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, qui était parti d'Antioche. Et on lit dans le chapitre 16 des Actes Paul souhaitait aller dans cette région au bord de la mer Noire pour apporter l'évangile. Mais il est dit que le Saint-Esprit les en a empêchés. On aimerait bien savoir comment, mais ce n'est pas précisé. Et puis, une nuit où ils étaient à Troas, ici, Paul a eu la vision d'un Macédonien, la Macédoine c'est ici, cette région-là, qui l'appelle au secours en le suppliant de venir en Macédoine. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Paul comprend alors que Dieu les appelle à apporter l'évangile en Europe. Et à ce moment, Luc, l'auteur du livre des Actes, se joint discrètement à eux, parce que jusque-là, dans le livre des Actes, il est écrit « Ils font ceci, ils vont ici ou là », tandis que, à partir de ce moment-là, il est dit « Nous sommes allés, nous avons fait, nous avons vécu ceci et cela ». Donc, apparemment, Luc, médecin, les a rejoints pour se joindre à eux. Donc, ils ont traversé de Troas jusqu'à Néapolis ici, la mer, Égée, et puis peu après, ils sont arrivés à Philippe, de Macédoine. C'est une ville assez importante, une colonie romaine, paraît-il peuplée de nombreux soldats et vétérans, et économiquement florissante. Et à son habitude, Paul contacte d'abord la communauté juive, qui devait ne pas être très importante parce qu'il n'y avait pas de synagogue, mais que ce petit groupe se réunissait le sabbat au bord d'une rivière pour prier. Un des membres de ce groupe est Lydie, une femme d'affaires, marchande de pourpre, qui est un colorant de tissu très cher, un produit de luxe. Lydie est d'origine païenne, mais elle adhère à la foi juive. Par la prédication de Paul, Lydie accepte l'évangile et avec tous les siens, ils reçoivent le baptême. Lydie invite Paul et ses collaborateurs à loger chez elle, ce qu'ils acceptent. Mais la suite du séjour de Paul à Philippe est beaucoup plus dramatique. Il se trouve que chaque jour, une femme voyante suit Paul et ses compagnons et crie, c'est au verset 17 du chapitre 16, Ces gens sont les esclaves du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Après quelques jours de cette publicité, Paul ne supporte plus de voir cette femme hors de son bon sens, même si ce qu'elle dit est vrai. Au nom de Jésus-Christ, il ordonne à l'esprit qui la possède de sortir d'elle. Mais la folie de cet esclave rapportait beaucoup d'argent à ses propriétaires, et ceux-ci, au lieu de se réjouir de la guérison, et ils font arrêter Paul et Silas, qui, après avoir été roués de coups de bâton jusqu'au sang, sont jetés en prison, sans autre enquête ou procès. Au fond de leur cachot, Paul et Silas, les pieds serrés dans des liens, ne se lamentent pas sur leur triste sort. Ils ne crient pas à Dieu l'injustice qu'ils subissent. Ils ne gémissent pas de la douleur des coups reçus. Non, ils prient et chantent des cantiques. Et voilà qu'un violent tremblement de terre casse tous les liens des prisonniers. Alors le geôlier se précipite, prêt à se suicider, car si des prisonniers s'échappent, il sera mis à mort. Paul l'apaise, les prisonniers sont tous encore là. Et le geôlier demande « Que faire pour être sauvé ?» Et Paul lui répond « Crois que Jésus est le Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. » J'abrège, relisez ce chapitre 16. Le geôlier accueille Paul et Silas chez lui. Il accepte l'évangile et reçoit le baptême avec toute sa famille. Au matin, Paul et Silas sont libérés après avoir exigé des excuses des responsables qui les ont fait battre et emprisonner indûment. Mais ils sont sommés de quitter la ville rapidement. Ils passent prendre congé de Lydie et des siens et ils quittent Philippe. Je crois que ce rappel des événements si forts vécus au début de l'évangélisation à Philippe était nécessaire pour bien comprendre ces liens de profonde affection qui lient Paul et les Philippiens. Et c'est une relation toute particulière puisque Paul dit que l'église de Philippe est la seule dont il ait accepté une aide financière, ce qui d'ailleurs est un des motifs de la lettre, Paul les remerciant au chapitre 4. Cette épître est une lettre de nouvelles et d'encouragement mutuel. Bien que tous les thèmes de l'Évangile y soient abordés, ce n'est pas un traité de doctrine à part quelques passages que l'on découvrira. Paul a donc beaucoup souffert au début de l'Évangile à Philippe, mais lorsqu'il écrit, il est encore dans une situation très difficile. On ne sait pas d'où Paul écrit. Il y a deux hypothèses dominantes qui sont Rome et Éphèse. La majorité des spécialistes penchent pour Éphèse. La discussion de ces deux hypothèses serait intéressante, mais elle sort du cadre de ce matin. Mais Paul est en prison de manière prolongée, et son avenir est incertain. C'est à cause de son activité missionnaire qu'il a été emprisonné. Et il se trouve que non seulement les païens lui veulent du mal, mais certains chrétiens, par jalousie envers lui, s'appliquent à annoncer l'évangile pour péjorer un peu plus ses conditions de détention. C'est assez incroyable. Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût des disputes, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Paul aurait donc toutes les raisons de se plaindre de son sort, de gémir et d'encourager ses amis de Philippe à le plaindre aussi. Ben, on voit qu'il n'en est rien, bien au contraire. Il se réjouit de ce que, de toute manière, l'Évangile progresse. Paul aurait toutes les raisons de se plaindre, mais c'est la joie qui l'habite. Celle-ci est mentionnée quatre fois déjà dans ce premier chapitre. Alors, de quelle joie est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est une joie masochiste? Plus je souffre, plus je suis content? Ça existe, hein? Pas du tout. Est-ce que c'est une joie à la méthode Coué? Le château brûle, mais tout va très bien, Madame la Marquise? Pas du tout. Paul est tout à fait réaliste quant aux difficultés qui sont les siennes. Il risque même la mort, envisagée de manière positive, car elle signifierait pour lui sa présence réelle auprès du Christ. Et il écrit « Être avec le Christ est de beaucoup le meilleur ». Cette joie si profonde, plus profonde que les difficultés, le Saint-Esprit veut aussi nous la communiquer. C'est pourquoi lisons et relisons ces paroles de l'apôtre au chapitre 4, au verset 4 des Philippiens. Il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et c'est un prisonnier, peut-être condamné à mort, qui écrit. Alors, qu'est-ce qui nourrit la joie si profonde de l'apôtre? Ne serait-ce pas d'abord cette affirmation en forme de salutation qu'il place en en-tête de la lettre? Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix que Dieu donne résument tout le salut. Le pardon de nos fautes et la réconciliation, l'adoption filiale par le Père, l'espérance de son règne qui vient. Au chapitre 8 de son épître aux Romains, Paul écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». L'apôtre peut se nourrir personnellement de ces affirmations, et il les adresse à tous ceux qu'il contacte. Et chacun de nous peut recevoir ces paroles pour soi. Par exemple, un bon truc, je crois. Lors d'insomnies toutes remplies de préoccupations diverses, pourquoi pas ne pas se répéter inlassablement, comme une prière dans notre cœur, Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ me dit à moi, grâce et paix. Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ me dit à moi, grâce et paix. Et en pensant à ceux qui nous sont proches ou moins proches, dans des relations faciles ou moins faciles, priez la grâce et la paix à toi, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix pour toi, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Un autre sujet de joie de l'apôtre, c'est bizarre. Non. Voilà, on va y arriver. C'est la part que les Philippiens prennent, versets 18 et 19, voilà. C'est la part que les Philippiens prennent à l'annonce de la bonne nouvelle. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous, de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Les Philippiens et lui font équipe. Ses amis, toute la communauté soutient son ministère par leurs prières ferventes et leur appui financier. Qu'importe. De toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Avant de conclure, réfléchissons un instant sur cette expression de Paul qui surprend. Pour moi, la vie, c'est le Christ. Faut-il être Paul pour pouvoir dire « Pour moi, la vie, c'est le Christ ?» Ou bien chacun de nous devrait le dire ou devrait pouvoir le dire? Est-ce une affirmation trop absolue, réservée à des gens d'un engagement exceptionnel? On voit sur cette table le pain et le vin qui nous rappellent l'amour total de Dieu manifesté en Jésus, son Fils, mort pour que nous ayons la vie. Sans sa mort pour nos fautes et sa résurrection qui manifeste que la mort et sa puissance ont été vaincues, nous n'aurions, autant que nous sommes ici, aucune espérance. Donc si nous disons oui à son offre de salut, nous disons oui à la vie qu'il nous donne, donc oui, chacun de nous peut dire pour moi, la vie, c'est Christ. Gloire à Dieu. Mais maintenant, noblesse oblige. La vie, c'est le Christ, signifie vivre selon l'échelle des valeurs qui sont les siennes. Et cela sera pour chacun de nous un apprentissage de toute notre existence, bien sûr. Il y a ce que nous croyons, ce à quoi nous adhérons. Il y a aussi ce que nous faisons, notre manière de vivre. Et il y a ce que nous disons ou chantons, ici par exemple. Alors recherchons, je crois, que c'est nécessaire à être cohérent entre ce que nous croyons, ce que nous faisons et ce que nous disons, personnellement ou en communauté. C'est un exercice permanent. Parce que si nous disions au Seigneur que toute notre vie lui est consacrée, en chantant par exemple, ou qu'il n'y a pas de mots pour lui dire tout l'amour que nous avons pour lui, nous le chantons dans un cantique, et que chaque dimanche on lise sur le même mot, par exemple, que le nettoyage de la chapelle manque de bras, il me semble qu'il y aurait un problème de cohérence. Pas vrai? Mais bref, louons Dieu joyeusement. Mais attention à la portée des paroles de certains de nos chants. Et restons sobres et humbles, veillons à louer Dieu, le Seigneur Jésus, et non notre piété. En conclusion, que le Seigneur renouvelle et nourrisse notre joie de lui appartenir. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Le Christ est ressuscité. Il revient bientôt, il nous associe à travailler, à promouvoir son règne qui vient dans chacun de nos lieux de vie et d'activité. Recevons donc l'encouragement de Paul. Conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ. Amen.